Bonjour et bienvenue dans la balado-diffusion du carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage. Un balado dans lequel on discute avec des professeurs, chargés de cours ou professionnels en pédagogie universitaire. Je m'appelle Stéphanie Collard et je suis conseillère pédagogique en technologie éducative. Aujourd'hui, je reçois Julie Fortin, qui est professeure en intervention plein air. Elle va nous entretenir sur un sujet qui est passionnant, l'enseignement à l'extérieur des murs de la classe. Bon balado! Bonjour Julie!
Bonjour Stéphanie!
On t'a invitée au micro aujourd'hui en raison de tes expériences d'enseignement, mais aussi de ton expertise en intervention par la nature et l'aventure. Merci d'être là!
Merci pour l'invitation!
Comme première question, je voulais savoir, c'est quoi pour toi l'enseignement hors classe?
Bon, d'une manière très simplifiée, l'enseignement hors classe, c'est toutes les formes d'enseignement qui se déroulent en dehors des salles de classe traditionnelles. Mmh. Donc, ça peut inclure différentes activités pédagogiques comme des sorties scolaires, des ateliers, des laboratoires, des visites en dehors de l'établissement, comme aller visiter un musée, par exemple, ou encore au sein même de l'établissement, comme par exemple aller faire un atelier à la bulle, à la bibliothèque.
Mmh, ouais.
Donc, ce seraient des activités qui correspondraient à de l'enseignement hors classe. Puis après, dans cet enseignement hors classe-là, on va avoir différentes approches qui vont être utilisées. De manière générale, ça va être des approches qui souvent vont être plus actives, qui vont solliciter le groupe, comme les approches comme l'apprentissage expérientiel, l'approche collaborative, l'apprentissage par l'expérience sociale. Donc, ce sont toutes des approches qui ont un tronc commun, je l'ai nommé tout à l'heure, c'est-à-dire que le groupe est au centre des apprentissages. Mm-hmm. Donc, c'est toute l'importance pour les personnes enseignantes de mettre en place un climat qui va être favorable au développement d'une communauté d'apprentissage confortable pour les personnes étudiantes, donc un endroit où ils vont pouvoir partager ou être confortables de s'engager puis de prendre des risques.
Être à l'aise.
Oui.
Puis justement, je me demandais, c'est quoi les avantages, en fait, pour les personnes étudiantes d'être dans ces contextes-là?
En fait, il y a plusieurs avantages. Puis le premier qui me vient spontanément, évidemment, c'est tout l'engagement qu'on peut percevoir chez les personnes étudiantes. Ça les expose à des situations qui sont réelles, qui sont plus dynamiques. Donc, c'est motivant, c'est plaisant. On est content quand nos personnes étudiantes ont du plaisir en classe.
Oui.
Ensuite, ça favorise les apprentissages, évidemment, au sens où la rétention de l'information est améliorée par le fait qu'on vit une expérience en le faisant. Donc, on a un contenu émotif qui est associé au contenu cognitif.
Okay.
Donc, ça favorise l'encodage de l'information dans le cerveau.
Ouais.
Mais aussi, ça développe d'autres compétences. Donc, ça favorise pas seulement le développement des savoirs puis des savoir-faire, ça permet aussi le développement des savoir-être. Parce que la modalité, elle oblige en quelque sorte à entrer en relation. On se retrouve inévitablement à collaborer avec nos pairs, à résoudre des problèmes ensemble, à vivre des aventures ensemble. Donc, les savoir-être se développent de cette façon-là. Ensuite, c'est l'occasion de créer des liens aussi, donc de se faire des amis. Ça a l'air banal, mais tu sais, dans la communauté universitaire, c'est pas toujours évident de socialiser dans des contextes extérieurs à la classe. Donc, si on peut le faire dans notre classe, c'est une bonne chose. Les autres personnes étudiantes peuvent aussi agir comme des modèles. Donc, on va apprendre des autres puisqu'on est tous ensemble puis qu'on partage, on échange.
Ouais.
Ça favorise aussi la créativité, l'autonomie, de sortir, de se mobiliser, de sortir de ce qu'on connaît. Puis finalement, on se retrouve tous au même... J'ai envie de dire, on se retrouve tous au même niveau, dans le sens que juste de pas être dans la disposition traditionnelle de l'enseignant à l'avant, puis des personnes étudiantes qui regardent l'enseignant. Quand on se retrouve à l'extérieur de la classe, souvent, on va avoir tendance à s'asseoir en cercle ou on va avoir... l'enseignant va être placé ailleurs, au sein du groupe, à travers les personnes étudiantes. Donc ça, ça fait que c'est moins menaçant, j'ai envie de dire, pour les personnes étudiantes d'interagir, de poser des questions. Donc ça favorise beaucoup l'échange. Ça facilite les échanges.
Oui, OK. Il y a vraiment beaucoup d'avantages, hein, pour les personnes étudiantes. Puis, en fait, il doit en avoir pour les personnes enseignantes aussi.
Oui, évidemment. Puis là, je vais vendre ma salade, là, parce que moi, je sais pas si c'est perçu déjà, mais moi, je suis passionnée là, par cette façon-là d'enseigner. Moi, ce qui me motive beaucoup comme enseignante, c'est que je vois les apprentissages des personnes étudiantes évoluer d'une séance à l'autre. Donc, j'ai pas seulement les activités d'évaluation pour les voir évoluer, je les vois au sein même d'une séance. T'sais, je les vois progresser, je les vois apprendre. Donc ça soulève beaucoup de fierté quand on est enseignant puis qu'on les voit, on voit les personnes enseignantes les personnes étudiantes apprendre. C'est très motivant pour une personne enseignante.
Oui.
Ensuite, c'est l'occasion de créer un lien de confiance. On sait comment c'est important, l'alliance dans l'enseignement. Donc, quand on sort ensemble, quand on vit une aventure ensemble, on crée des liens plus particuliers avec les personnes étudiantes. Donc, ça favorise l'alliance.
Ouais.
Puis finalement, j'ai envie de dire, ça nous permet de profiter de tout le potentiel des individus qui sont présents dans notre groupe. Parce que nos classes, ils sont remplis d'une biodiversité extraordinaire. les personnes étudiantes, ils savent plein de choses, puis ils sont curieux. Puis le fait de sortir de la classe, de faire de vivre des aventures, de leur poser des questions, de les solliciter, bien, ça nous permet de profiter là, du potentiel de ce groupe-là, nous aussi comme personnes enseignantes.
Ah, c'est vraiment super, merci. Puis, en fait, tu nous as parlé des avantages là, des personnes enseignantes, des personnes étudiantes, mais d'un point de vue pratico-pratique maintenant, comment on met ça en place ou bien c'est quoi la posture à adopter, tu sais, quand on est une personne enseignante puis on veut travailler dans ce contexte-là?
Bien, en fait, ça change quand même pas mal la posture. Parce que la personne enseignante devient facilitatrice des apprentissages. C'est-à-dire que plutôt que de transmettre une information, on soutient puis on accompagne les personnes étudiantes dans la réalisation d'un processus d'apprentissage. Donc, c'est un processus, bien sûr, qu'on a préparé, donc dans lequel on a mis beaucoup de temps puis on s'est assuré qu'il était ajusté, qu'il était aligné avec nos objectifs.
Ouais.
Mais il y a une certaine incertitude par rapport aux résultats. Donc, pourquoi? Ben, c'est parce que la personne enseignante n'est plus le seul maître dans son bateau. Donc, on propose un beau bateau avec des gens dedans. Puis là, tout le monde peut contribuer à où va ce bateau-là. Donc, évidemment que ça demande de faire confiance, ça demande un peu plus de lâcher prise.
L'adaptation.
Ça demande de l'adaptation, exactement, de la flexibilité, des capacités d'adaptation. Puis tout ça, ben, t'sais, je l'ai nommé tantôt, là, puis je me répète sans doute, là, mais y a évidemment une planification. Là.
Ouais.
Puis cette planification-là, ben, elle peut parfois demander une certaine gestion. T'sais, par exemple, au niveau du matériel, des fois, on va faire des activités qui vont demander du matériel.
Ouais.
Sinon, au niveau de la réservation des locaux, si on se déplace, on peut avoir besoin de réserver aussi un transport.
Autobus,
ben oui. c'est ça. Il y a une certaine gestion au niveau de l'horaire et tout ça. Je dis souvent qu'on s'engage autant que nos personnes étudiantes. Donc, je vous disais un petit peu plus tôt dans le balado que les personnes étudiantes allaient être plus engagées dans cette modalité d'enseignement-là. Ouais. Mais je pense que c'est la même chose pour la personne enseignante. Là. Elle doit s'engager davantage. Ça demande de l'investissement. C'est ce qui fait que c'est riche. Donc, tu sais, pour moi, c'est là-dessus que reposent les effets de cette modalité d'enseignement-là. Donc, pour moi, ça va de soi que cet engagement-là est là.
OK. Mais disons maintenant que je te demande, c'est quoi le principal défi de ce contexte d'enseignement-là?
Je dirais que c'est de créer des expériences significatives pour les personnes étudiantes en tenant compte de toute la diversité de leurs besoins. Donc, c'est de réussir à leur faire vivre une certaine dose de défis pour qu'elles soient mobilisées, pour qu'elles soient actives, qu'elles soient stimulées, sans qu'elles se retrouvent trop loin de leur zone de confort.
Mm.
Donc, il y a plusieurs théories là, qui font référence à ce concept-là. Puis, dépendamment de leur discipline, ils vont utiliser différents termes. Si je te parle de la zone proximale de développement en enseignement, probablement que tu vas savoir de quoi je parle. Mais il y a d'autres disciplines aussi qui vont parler de l'état de flow, de la zone de stress modéré ou de la zone d'activation optimale. Donc, c'est l'idée d'amener les personnes dans un état où ils vont être poussés à sortir de leur zone de confort sans être complètement submergés par l'anxiété. Ça peut être un défi avec la biodiversité dont je parlais tout à l'heure. mais pour moi, de varier les contextes puis les stratégies d'apprentissage, c'est une façon d'être plus inclusive dans mon enseignement.
Mm.
Puis de chercher à amener les gens dans cette zone-là tant convoitée là, qui favorise la croissance, ben pour moi, ce serait ça là, le principal défi, de trouver cet équilibre-là.
OK. Puis est-ce que tu aurais deux mots peut-être pour me parler de ce contexte d'enseignement-là?
Oui, s'il faut que je résume en deux mots, je dirais que ça requiert de la souplesse et une petite dose d'audace aussi.
Souplesse et audace, quel beau mot de la fin. Merci Julie pour ton partage d'expertise qui est sur ce sujet-là qui est si intéressant.
Et ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation.
Reçu aujourd'hui au balado du Carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage, Mme Julie Fortin, qui est professeure en intervention plein air. Suivez-nous pour les prochains épisodes du balado du Carrefour!